Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Une nouvelle traversée de Paris nous est contée. On n'y entend ni cette citation mythique « Salaud de pauvre, ni cria tue-tête Jambier ». Et les héros ne sont ni Jean Gabin ni Bourville, comme dans le film de Claude Autant-Lara, mais deux personnages aussi impressionnants par leur présence que par leur talent, Pablo Picasso et Guillaume Apollinaire. Nous sommes en 1911, on a volé la Joconde. Voici un roman certes, mais semé de si nombreuses vérités d'informations qu'il ajoute à une aventure rocambolesque pleine d'humour et de dérision, la fresque d'une époque extrêmement fertile dans le domaine des arts est riche de l'apport important d'étrangers accueillis en France. Intitulé Le vol de la Joconde, édité chez Grasset, j'ai le plaisir d'accueillir son auteur, Dan Franck. Dan Franck, bonjour.
Bonjour.
Alors, doux plaisir de vous revoir parce que vous étiez venu en un temps à deux reprises au moins. Et puis, avec cet ouvrage qui est vraiment, qui fait du bien. Qui fait du bien parce que d'une part, on est dans un monde d'artistes quand même, de culture. On apprend beaucoup de choses et on rit beaucoup. Ça fait du bien, vous savez.
Ah oui, mais même en écrivant, je rigolais. Et vous savez, moi, j'ai toujours pensé que quand on s'ennuyait en écrivant, on s'ennuie en lisant. Donc, il faut prendre du plaisir à l'écriture pour en donner au lecteur.
Oui, certainement. Alors, c'est amusant parce que j'ai pensé à votre roman pour lequel vous étiez d'ailleurs venu, Libertad. Il s'agissait des acteurs des années 30. Et on y trouvait le mauvais caractère d'André Breton. Aragon était considéré comme un traître par certains de ses pairs. Et puis il y avait également, c'était Lilia et Ehrenbourg. C'est le prénom, je ne suis plus sûre.
Lilia
et Ehrenbourg. Vous disiez qu'elle avait un rôle ambigu. Là, nous sommes au début du XXe siècle. Nous sommes en 1911. Et oui, on a donc volé la Joconde. L'histoire. Qu'est-ce qu'elle est finalement cette histoire ?
En fait, en 1911, on vole la Joconde.
Oui.
Et puis, il y a un type qui s'appelle Géry Pierret qui envoie une lettre à Paris Journal en disant « Voilà, je n'ai pas volé la Joconde, mais j'ai volé des statuettes au Louvre. » Et d'ailleurs, j'en ai volé il y a quelques années, deux, que j'ai remises à un peintre assez connu. Bon. Et Apollinaire découvre ça dans la presse. Il connaît ce Géry Pierret qui était son secrétaire. Et son secrétaire lui a vendu une tête ibérique et donné l'autre. Et Apollinaire a refilé ses têtes à Picasso. Et Picasso s'en est servi pour faire les demoiselles d'Avignon.
Les oreilles, principalement.
Les oreilles.
Oui.
Et donc Apollinaire téléphone à Picasso qui se trouve dans les Pyrénées à faire du cubisme avec Braque et lui dit « il faut que tu remontes tout de suite ». Et Picasso lui dit « pourquoi ?» Et Apollinaire dit « je te raconterai ». Donc Picasso remonte, parce que le téléphone existait déjà. Picasso remonte, il arrive gare d'Orsay, Apollinaire l'attend et lui dit « Écoute, voilà, on va être emmerdé parce que le type qui s'appelle Géry Pierret, qui était mon secrétaire et qui t'a vendu par mon intermédiaire deux statuettes ibériques, dit que c'est toi qui les as. » Et Picasso ne se souvient pas et l'autre lui dit « Mais on va aller au bateau Lavoir et tu vas les retrouver. » Et ils arrivent au bateau Lavoir, ils fouillent dans le bateau Lavoir et ils retrouvent les deux têtes ibériques. Alors dans mon livre... Il les met dans une valise.
Et ça va être un périple. Mais je n'ai pas d'ailleurs compris pourquoi s'était-il dénoncé cet homme
qui était
un Belge, enfin peu importe.
C'était un aventurier un peu escroc, un peu vantard.
Oui, mais il risquait la prison.
Mais d'ailleurs, il a été condamné, je crois, mais Apollinaire aussi. Enfin,
oui,
pas
longtemps, on va en parler. Oui.
Mais non, c'était un vantard, c'était une vantardise. Et vous savez, à l'époque, on rentrait au Louvre comme ça, et même Picasso disait à son ami de l'époque, qui s'appelait Fernand Olivier, il lui disait « Je vais au Louvre, tu veux que je te rapporte quelque chose ?» Comme si je vais au marché, quoi. Donc le Louvre était une passoire.
Oui, visiblement. Alors évidemment, la Joconde a disparu, le scandale est énorme, et la police est sur les dents, et les rumeurs les plus folles courent. Hein, c'est une histoire de... Ça doit être des Juifs ou des étrangers. Il y a ça. C'est un peu nauséabond, même. Hein,
c'est-à-dire qu'en fait... Apollinaire et Picasso ont très peur parce qu'ils peuvent être accusés de recel éventuellement de complicité. Et ça, c'est de l'expulsion de France. Or, ils sont étrangers tous les deux. Il y en a un qui est espagnol, l'autre qui est italo-polonais. Oui. Et en fait, ce qu'ils craignent, c'est d'être expulsés de France. Paris, à l'époque, et la France en général, et c'est une terre d'accueil extraordinaire pour les étrangers.
On va en parler parce que effectivement, on le sait plus ou moins, mais là, tel que vous l'écrivez, on se rend compte que c'était extraordinaire et tellement riche. On évolue, d'Anne Frank, on évolue entre la fiction et la réalité, parce que dans tout ce que vous dites, il y a beaucoup de faits qui sont réels. Les dialogues sont imaginaires, bien sûr, mais tout est plausible.
Mais tout est vrai. C'est-à-dire qu'il y a deux ou trois fois, par exemple, parce que le principe, c'est ils ont la valise, ils doivent aller la planquer chez des gens qui sont insoupçonnables. Donc ils vont voir Matisse, ils vont voir Alfred Jarry, ils vont voir Utrillo, ils vont voir Modigliani.
Et alors là, il y a des portraits ou des scènes désopilantes. Enfin, on va en parler parce que finalement, vous nous les montrez tels qu'ils sont, avec leurs originalités, leur originalité. Ils sont. On va en parler. Oui. Alors, il y a les personnages, mais il y a déjà l'époque, le portrait d'une époque. Mais vous parlez du train, vous parlez du téléphone, tout ce qui est quand même assez nouveau en définitive.
Mais oui, on vit une époque, le chemin de fer existe déjà depuis quand même un petit moment, mais le métro, il n'y a pas beaucoup de lignes. Enfin, on est quand même après Haussmann, mais il y a beaucoup de purins dans les rues parce que c'est des carrioles à clé, des omnibus à cheval. Ouais. C'est un peu toute cette période-là. Et vous savez, moi, j'avais écrit trois livres qui sont Bohème, Libertad et Minuit, qui ont été republiés dans un très gros livre qui s'appelle Le temps des Bohèmes et qui raconte, en fait, d'une manière, c'est un récit qui n'est pas fictionné, qui raconte tout ça, c'est-à-dire qui raconte la vie des artistes. En fait, ce qui m'intéressait, et ce qui m'intéresse dans Le vol de la Joconde, c'est de raconter l'évolution de la société à travers les artistes, raconter qui ils étaient, voilà. Et donc, les histoires que je raconte, qui sont des anecdotes, sont des histoires que j'ai puisées dans ce terreau-là. Elles sont toutes racontées par Apollinaire ou par André Salmon ou par Picasso lui-même ou d'autres et qui étaient des anecdotes à l'époque et qu'on a totalement oubliées.
Oui,
et
oui.
Je trouve que ces anecdotes et ces histoires permettent de retracer l'époque, de comprendre
exactement
ce qu'elle était, mais aussi qu'est-ce que c'était que l'essence, enfin l'art moderne à l'époque,
oui, le milieu
et puis les rapports entre les uns et les autres.
Oui,
quoi. Comment
oui.
Matisse s'entendait avec Picasso, comment oui. Picasso s'entendait avec Juan Gris ou avec Guillaume Apollinaire. C'était une bande d'amis en fait, c'est une bande de copains.
D'ailleurs, c'est amusant, j'étais en train de penser qu'il n'y avait peut-être pas aussi ce pouvoir de l'argent, mais après il y a eu Picasso. Picasso, il avait quand même la notion de l'argent, mais...
À l'époque, ils étaient pauvres.
Oui,
voilà.
Oui, tous, là.
Ils étaient un peu... Apollinaire était un peu moins pauvre que les autres parce qu'il avait un travail stable, si j'ose dire, mais autrement, ils étaient pauvres. C'était la bohème, hein. Ils vivaient, voilà, simplement. Donc, en fait, ils allaient piquer du lait dans les immeubles bourgeois, dans les étages, ou bien ils avaient des combines pour
une
gagner...
Une pomme chez un collègue.
Une pomme chez un collègue, chez Matisse, ou bien ils vendaient leurs toiles, mais leurs toiles, elles étaient vendues sur le trottoir par des ferronniers qui étaient devenus ou des pharmaciens ou des joueurs de je sais pas, des boxeurs qui étaient devenus marchands d'art. Et c'était vendu à côté d'une carriole sur le trottoir. Vous trouviez un Picasso à côté d'un Matisse et puis il y avait un fer à repasser à côté. Enfin, c'était cette époque-là.
Ouais.
Après, Picasso est le premier à être riche, il devient riche en 14. En 14, il y a une vente aux enchères qui s'appelle la vente de la peau de l'ours, et c'est lui qui l'emporte devant Matisse. D'ailleurs, il est très fier et très content, parce qu'ils étaient assez concurrents à cette
époque.
Oui,
oui.
Mais quand je raconte en 1911, alors c'est là où je triche un tout petit peu, c'est qu'en 1911, Picasso, il a gardé le bateau Lavoir, mais il habite boulevard de Clichy dans un appartement
bourgeois. Oui, la chronologie n'est pas toujours respectée, mais
trois
peu
ans près, mais ça n'a pas d'importance.
Exactement.
Et d'ailleurs, je le dis, dis bon, voilà, vous n'êtes pas à trois ans
près.
Oui,
alors d'ailleurs, ce que je trouve très drôle, pardon, je vous interromps, c'est que parfois, le narrateur, vous intervenez, il dit, ben profitons-en, tiens, on va parler de ça, et puis la chronologie, je ne sais pas, j'ai noté à la page 105-106, il y a des passages, et comme vous dites, dans le fond, on s'en moque.
Non, hein, parce que en plus, je le dis, je dis par exemple, oui, c'est ça, le douanier Rousseau est mort trois ans avant, mais on s'en fiche, il y a plus d'un siècle, on a oublié.
Ouais. Alors, bon, la Joconde a été volée, c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas, parce que dans le fond, on parle beaucoup des peintres, mais pas de la Joconde.
Non, je ne parle pas de la Joconde,
Non. Vous ne parlez pas de Renoir, bon, il est mort en 1919, peut-être qu'il était
Renoir
déjà...
Renoir n'était pas dans cette bande-là.
Non.
Voilà. Moi, en fait,
qui fréquentait-il Renoir?
Bah, c'était ses copains impressionnistes, hein, surtout. Oui, c'est mais, ça, oui. Mais c'était une autre école. C'était, oui, oui. Ça vient après. Je veux dire, oui. Le cubisme, en fait, moi, je parle des cubistes. Oui. Et puis
ils sont plus, nettement plus jeunes.
Ils sont beaucoup plus jeunes. Ils sont plus jeunes. C'est-à-dire que l'impressionnisme était une immense époque artistique et le cubisme en a été une autre. Et là, on est dans ceux qui vont inventer ou qui sont en train d'inventer les le cubisme.
Alors, ce qui est incroyable, c'est cette richesse d'artistes rassemblés à Paris et qui viennent pour beaucoup de pays étrangers. Alors, j'ai noté Picasso, évidemment, Apollinaire qui vient d'un pays de l'Est, Fujita.
Pologne. Italie-Pologne, oui.
Oui. Fujita, Vlaminck, Picabia, Juan Gris, Gertrude Stein. Et puis d'autres encore. Hein. Quel accueil. Et comme Paris était vraiment le phare.
C'était la capitale du monde, Paris, à cette époque. C'est-à-dire, on y venait. Il y a eu l'école de Paris, c'est-à-dire les écrivains, les peintres juifs comme Soutine, Chagall, des sculpteurs, Cremeg et d'autres, qui sont venus à Paris parce que d'abord, ils pouvaient représenter l'univers alors que la religion l'interdisait. Et puis, il y a eu tous les autres qui venaient parce qu'on pouvait se loger pour pas cher. Paris était une ville extrêmement libre et l'art s'y développait d'une façon absolument formidable. Et c'est pour ça que les uns appelant les autres, le cubisme est né à Paris, le surréalisme est né à Paris, enfin en France en tout cas. Et donc c'est un hommage à cette époque-là qui était une époque extrêmement généreuse.
Oui, fuyant aussi une certaine misère dans certains pays, politiquement également. Hein, je crois qu'il me semble que qui est-ce qui a dû quitter je ne sais pas. Il me semblait que, quittant la Russie, je ne sais pas qui c'était.
Non, c'est parce qu'en fait, ce n'était pas pour des raisons politiques. C'était Soutine, sans doute, je parlais
peut-être
de Soutine.
Peut-être Soutine, oui.
Oui, parce que c'est avant la Révolution russe. Il y a eu une grande émigration des Russes blancs après à Paris.
Oui, après.
Il y avait beaucoup de libertaires. Voilà. Il y a beaucoup de libertaires qui se sont réfugiés d'abord à Montmartre, parce que Montmartre n'était pas cher. Et puis ensuite, qui sont passés à Montparnasse, parce que, en fait, les peintres étaient beaucoup à Montmartre. Et les sculpteurs et les poètes étaient plutôt à Montparnasse. Et c'est Guillaume Apollinaire qui emmène Picasso et la bande de Picasso de Montmartre à Montparnasse. Après, ils vont à Montparnasse. Et ensuite, c'est une autre histoire. C'est avant la Seconde Guerre mondiale ou après et pendant, ils redescendent à Saint-Germain-des-Prés.
D'accord. Alors, nous allons voir les deux compères, c'est-à-dire Apollinaire et Picasso. J'ignorais cette amitié qu'il y avait entre eux, une amitié très... très vive, et puis ils ont des mots, on a l'impression qu'ils s'admirent mutuellement.
Ah ouais, ils ont une grande... D'abord, il faut comprendre que Picasso, c'était un pôle. C'est-à-dire que tout le monde allait vers Picasso. C'est
extraordinaire. Il avait un magnétisme.
Il avait un magnétisme. Alors, quand il arrive à Paris, c'est Max Jacob, le poète Max Jacob qui a été déporté.
Ah oui, oui.
Et Max Jacob, qui était fou d'amour pour Picasso, et puis fou de chagrin après, parce quand Apollinaire arrive, qui est un peu plus cultivé que lui, qui est un peu plus mondain, eh bien, Max Jacob est relégué. Mmh. Et puis après, il y a eu Aragon, et il y a eu Cocteau, enfin, Picasso attirait les écrivains, puis il aimait bien cette collaboration, je dirais. Il y a eu, entre Picasso et Apollinaire, il y a des sources communes. Il y en a un qui a chanté les saltimbanques que l'autre a peint, et il y a comme ça beaucoup de croisements entre les deux.
Oui, oui. Et puis avec une vivacité d'esprit, parce qu'on a l'impression, en effet, que Apollinaire est capable de composer un poème comme ça. Le pont Mirabeau, alors je ne sais pas comment il l'a composé, parce qu'à un moment donné, quand vous le lui faites dire, c'est très drôle aussi, c'est au moment opportun, il se pose des questions, est-ce qu'ils vont jeter la valise dans la Seine sous le pont Mirabeau? Bon. Pour en parler d'abord de Picasso, évidemment, ça a été le fondateur du cubisme avec Braque, mais dans le fond, vous ne parlez pas tellement de Braque.
Non, d'abord parce que Braque c'était la bande de Picasso, c'était Apollinaire, Braque, Vlaminck, Max Jacob, enfin quelques-uns comme ça, mais Braque était plus sérieux.
Comme Matisse
pendant
d'ailleurs.
Un temps, oui, moins que Matisse quand même, mais Matisse, oui, on appelait Matisse Pôle Nord et Picasso c'était Pôle Sud. Vous aviez Pôle Sud et Pôle Nord.
D'accord.
Non, Braque c'était quand même, c'était un joyeux de riz aussi, mais il était moins présent que, puis surtout, ils ont construit ensemble le cubisme. C'était une, je dirais, les premiers de cordée, on les appelait, c'est-à-dire ils se sont hissés l'un l'autre. D'ailleurs, vous savez que quand il y a un certain nombre de toiles cubistes qui ne sont pas signées, ou signer un peu dans, au dos, mais pas toujours, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on identifie l'un et l'autre. Et d'ailleurs, il y a certaines toiles cubistes, on ne sait pas si c'est Picasso ou Braque. Mais donc, il y avait, je dirais, une espèce de collaboration, de complicité artistique absolument extraordinaire, mais ça en restait un peu là. Alors qu'avec Apollinaire, il y avait beaucoup plus de chaleur.
Et puis
Apollinaire est un personnage extraordinaire. Apollinaire est un type d'une culture phénoménale. Grand déconneur en même temps, grand farceur.
Avec une quantité de poèmes érotiques importantes aussi.
C'était un érotomane incroyable.
Oui, mais alors, malheureusement, toutes les femmes le quittaient, chez Picasso, c'était l'inverse. C'est lui qui quittait toutes les femmes. Mais le passage où vous parlez, ils vont chez la mère d'Apollinaire, c'est désopilant. Elle était comme ça, sa mère ?
Sa mère habitait avec son beau-père une maison au Vésinet assez bourgeoise, avec un setter qui se baladait sur la pelouse. Alors ils y allaient de temps en temps, parce que Apollinaire apportait son linge à sa mère pour qu'elle le fasse qu'elle le nettoie, qu'elle le lave. Et donc ils y allaient de temps en temps. Mais c'est vrai que la mère d'Apollinaire n'aimait pas trop les copains de son fils, quoi. Mais à l'époque, il avait 30 ans, quand même,
Apollinaire. D'autant que Picasso, disons-le, ne présentait pas très bien. Il était en salopette un peu
ce fameux bleu de travail. C'était un bohème. À l'époque, c'était un bohème. Ils étaient en espadrille. Enfin, Apollinaire n'était pas comme ça. Apollinaire, lui, c'était un costume trois pièces avec une cravate et une chaîne de montre. Picasso, c'était le bleu de chauffe et cette tenue comme ça qu'on a vu sur les photos, quoi.
Un bohème. Mais alors, avec une telle assurance, une telle foi en lui, une telle confiance en l'avenir, parce qu'à un moment donné... dans 11 ou 12 ans, moi, je serai très loin, répond Picasso, sans se soucier de l'avenir de son copain. Très, très loin. Tu as du chemin à parcourir, souligne Matisse. Ta cote, aujourd'hui, c'est combien ? J'atteins les 50 euros. Un peu plus que Dufy et Rouault. Eux, ils sont à 30. Pauvre trio, gémit Apollinaire, il est à 10. Et moi, à 70, exulte Matisse. Je vous bats tous. Profite, rétorque Picasso, ça ne durera pas. Et ainsi de suite, oui, à un moment donné... Matisse, tu sais quel prix lui donnera l'histoire en parlant des coucous tapis bleus et roses. Alors effectivement, ça s'est très bien vendu. Donc là, évidemment, on joue un peu avec les dates. Tu sais quel prix lui donnera l'histoire à ce fameux tableau. Donc, quand Matisse compte sur ses doigts, réfléchit, dit, mettons 100 ans, ça laisse le temps de voir venir. Combien ? 42 millions de dollars. Soit, conversion faite en euros d'aujourd'hui, 36 millions. Peanuts, rétorque Picasso. Moi, par exemple, Matisse se coupe. Ça t'arrive, Picasso, de commencer une phrase autrement que par moi, par exemple ? Pourquoi ? Je suis un mauvais exemple ?
Mais tout ça, alors évidemment, les dialogues sont inventés, sauf que ça repose sur une vraie réalité.
Des caractères.
D'abord, oui, c'est-à-dire que là, ce qui est mis en scène, c'est... la jalousie, la concurrence de Picasso et de Matisse, ça ne va pas durer, mais quand même, à l'époque, elle est importante. Mais les deux savent que ce sont les deux génies de l'art moderne. Et en fait, ils le savent l'un l'autre, et ça leur permet de vivre quand même, parce que ils sont
pauvres.
C'est
stimulant.
Mais c'est stimulant. Ils se disent on y arrivera, on va y arriver. Et Picasso, il a cette quand même ce génie-là. Il ne cède devant rien. Par exemple, il était très méprisant à l'égard de Juan Gris ou d'autres qui gagnaient un peu leur vie en faisant des dessins ou des dessins satiriques dans l'assiette au beurre ou des journaux comme ça.
Il dit même là, vous lui faites dire, moi je ne peins jamais sur commande.
Non, mais c'est vrai. Oui, c'est un fleuriste. Oui. Enfin, c'est pas un fleuriste, un marchand, je sais plus comment il s'appelait, c'est le père Soulier, voilà, c'est ça, qui l'arrête, qui lui dit, tu veux pas me peindre un bouquet de fleurs, parce que j'ai un copain qui veut, enfin, un acheteur qui veut des fleurs. Et Picasso dit, j'ai pas de blanc, alors je peux pas le faire. L'autre lui dit, on s'en fout, tu fais des fleurs d'une autre couleur, c'est bien. Puis en plus, les fleurs peintes, c'est encore mieux, il n'y a pas besoin de changer l'eau, c'est bien. Enfin, c'était comme ça, quoi, voilà.
Ah oui, une sacrée personnalité. Déterminée, sûre de soi, n'affichant pas l'ombre d'un doute.
Mais c'est vrai. Il était très, très, très sûr de lui, Picasso, Matisse aussi. Mais tous, voilà. Quelque part, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il y avait sûrement du doute au niveau de la création.
Utrio, peut-être que plutôt...
Utrio, c'était un alcoolo. Utrio, il buvait, quand il n'avait pas d'alcool, il buvait 3 litres de parfum, d'eau de Cologne. Il y a d'ailleurs...
Oui, apparemment, l'absinthe coulait pas mal.
L'absinthe, mais même le hashish. Le hashish. Ils en ont pris, ils en prenaient un peu au bateau lavoir. Ils ont arrêté à un moment donné. Il y a une scène où, je ne sais pas si je la raconte dans ce livre, mais il y a une scène où Picasso pleure quasiment en disant mais c'est terrible, il y a la photo, maintenant il n'y a plus de peinture à cause de la photo. Et puis, bref, ils boivent, ils fument, ils tirent, ils ont des pistolets, ils tirent en l'air, ils s'amusent beaucoup en fait, ils s'amusent beaucoup.
Oui, oui, oui. La bohème. Comme le chante Charles Aznavour, ouais. Finalement. Moi, j'aimerais bien que vous nous lisiez un passage où on parle de... alors, Vauxhall. C'est l'homme qui a défini les deux grandes écoles picturales du moment, le fauvisme, etc.
Et le cubisme, oui.
Et le cubisme, ouais. Voilà. Alors, bon, peut-être qu'on peut aller... Alors, évidemment, c'est un dialogue, mais je crois que les auditeurs auront plaisir à entendre ce dialogue.
Je vais essayer de
le lire. Jusqu'à la page 106.
Alors, je prends le livre. Non, non, bougez pas, attendez. Voilà. D'accord. Alors, je commence... Ah oui, Vauxhall... Vauxhall, c'est l'homme qui a défini les deux grandes écoles picturales du moment. C'est ça que vous voulez que je lise?
Oui. Oui.
Le fauvisme, parce qu'au salon d'automne de 1905, Matisse, Derain, Vlaminck, Marquet, Manguin et Camoin exposaient des œuvres très colorées dans une salle aussitôt baptisée par Vauxhall « Cage aux fauves ». Le cubisme, en hommage méprisant aux formes géométriques, rappelant des cubes dans les œuvres de Braque exposées chez Kahnweiler en 1908. Fauvisme et cubisme. Couleur ici, forme là. Picasso, lui, n'a jamais pensé que la peinture de Matisse était révolutionnaire, mais un sommet de l'art classique. Là, c'est lui qui parle. « La révolution, c'est moi qui l'ai faite, avec le portrait de Gertrude Stein, puis l'autoportrait qui a précédé le bordel d'Avignon. »« C'est pas le titre final, » fait remarquer Apollinaire. « Heureusement, » grince Matisse. « Je préférais mon titre, » rappelle Apollinaire, « le bordel philosophique. »« Les demoiselles d'Avignon, il paraît que ça sonnait mieux. »« Une toile que personne n'a jamais vue, » ricane Matisse. Apollinaire n'insiste pas. Il fait partie des amis que Picasso a introduits dans son atelier du bateau lavoir et qui tous se sont détournés de l'œuvre. Personne ne la comprend. Lui, pas mieux que les autres. « Je l'exposerai en 1916 », décrète Picasso. Après, elle sera expédiée au Museum of Modern Art de New York. Il ne parle pas l'anglais, mais ça lui plaît de répéter « le Museum of Modern Art de New York ». Ça lui donne une stature internationale. Ça le grandit. Il répète une troisième fois ce qui a le don d'exaspérer Matisse. « Moi aussi, je serai aux States. Au quoi ? In the suburb or Philadelphia. » Personne ne sachant, personne ne répond. Le docteur Barnes, vous connaissez ? Il a inventé l'argirole, un antiseptique. Il a créé un musée pour son petit personnel. Dans ce musée, il y aura mon bonheur de vivre. Combien tu l'as vendu ? C'est pas fait. Faut que j'attende encore 11 ou 12 ans. Je serai plus là pour juger, soupire Apollinaire.
Oui, parce qu'il faut dire, pardon, Apollinaire, on a prédit un autre article.
Max Jacob, c'est Max Jacob lui a prédit sa mort.
Oui.
Parce que Max Jacob lisait dans les lignes de la main.
Voilà.
Voilà. Et il lui dit, bah, écoute-toi, tu vas mourir très jeune. Et alors, il est très triste, Apollinaire, et Picasso est rassuré parce que lui, il va mourir très vieux. Et alors, comme Apollinaire se plaint, Picasso lui dit « Oui, mais regarde, moi, je serai tout vieux, tout fripé, parce que toi, tu seras jeune, tu seras beau, enfin bref, etc. »
Voilà, et alors, ce sont des dialogues, mais vraiment, c'est vrai qu'on rit, ou on sourit, et chaque fois, c'est ainsi. Pour les auditeurs, vous avez parlé de Kahnweiler qui était un grand vendeur, hein, acheteur,
un marchand
d'art, qui est resté dans les mémoires de beaucoup.
Oui, c'était le marchand de Picasso et des cubistes.
Des plus grands. Et puis, quand vous dites, vous le dites à un moment donné que le cubisme, au départ, c'était méprisant comme dénomination.
Oui.
Ça a été une moquerie.
C'est ce que dit Vauxhall. On appelait ça le cubisme parce que c'était des cubes.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire, en fait, et d'ailleurs, le public, vous savez, c'est extraordinaire le cheminement de l'art. C'est que, par exemple, Matisse, qui paraît révolutionnaire, à un moment donné, il est membre d'un jury dans un salon, je ne sais plus lequel, et il expulse les cubistes. C'est-à-dire, en fait, les avant-gardes deviennent conservatrices.
Oui.
C'est toujours vrai, même vrai en musique. Beethoven casse des codes, et puis après, par rapport à la musique dodécaphonique, il est ancien, quoi.
Oui. Oui, oui.
C'est le cheminement de l'art.
Alors, Dan Frank, je vous propose une pause musicale. Nous allons écouter un petit peu de jazz.
Et puis formidable.
Nous reprendrons.
Super. Ensuite. ¶¶
D'auteur Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons Dan Franck qui vient nous parler de son nouveau roman, Le vol de la Joconde, et nous retrouvons aussi deux joyeux de riz. À l'époque, c'était des joyeux de riz. Hors antenne, Dan Franck m'a dit qu'en vieillissant, ben oui, on se calme un peu. Cette époque-là, c'était la bohème. Plus tard, ça, c'est vrai qu'Apollinaire, de toute façon, ce que lui avait prédit Mac Jacob, on en parlera parce que c'est, ça aussi, c'est très drôle, ben, c'est réalisé. Hein c'est que... Alors, il paraît que Mac Jacob lisait dans les lignes de la main.
Ah oui, Mac Jacob, il est... Par exemple, Mac Jacob, il sniffait de l'éther, il allait se nourrir, il échangeait dans une pharmacie de la gare Saint-Lazare, il échangeait de l'éther contre des prédictions à la vendeuse. Alors, est-ce que c'était vrai, pas vrai? Bon, mais c'était un personnage extraordinaire, Mac Jacob. C'est un personnage qu'on connaît moins bien. J'ai fait un film sur lui, j'ai écrit un scénario, c'était le dernier rôle de Jean-Claude Brialy, d'ailleurs. Mmh. Et c'était poignant parce que... Il a joué la mort de Mac Jacob, qui est mort à Drancy, je crois, en 1943. Ouais. Et Brialy jouait ça d'une manière absolument extraordinaire. Et en fait, on a appris après, parce qu'il nous l'a dit, on ne savait pas, il mimait sa propre mort. Il était très malade lui-même. D'accord. C'était son dernier rôle, il est mort peu après. Ouais. Enfin, j'ai une grande tendresse pour Mac Jacob.
Ouais. Oui, et pour Brialy, ça a été une... c'était bien de finir de,
bien sûr,
avec cette œuvre-là.
Oui, ouais. Oui. Mais il connaissait bien, il avait une grande culture, il connaissait tout ça.
Oui. Donc, il traverse Paris, on a parlé de Picasso, mais attention, on n'a pas parlé d'Apollinaire. On n'a pas suffisamment parlé. Pour moi, vous voyez, Apollinaire, je l'aime beaucoup. Et puis j'aime beaucoup sa poésie, c'est vrai. Mais son caractère, je ne le connaissais pas. Moi, je le trouve très sympathique. Alors, il a des amours malheureuses.
Oui, les femmes le rejettent. Il est, pourquoi ? Parce qu'il est érotomane, un peu vulgaire, pas toujours sérieux, c'est un affectif en même temps.
Mais vous dites qu'il est un peu vulgaire. Alors effectivement, il y a des poèmes
qui sont... Hein.
Mais oui, voilà. Mais parce qu'il est capable de beaucoup de finesse aussi.
Ah, mais c'est un type passionnant, Apollinaire. Apollinaire, c'est un type qui est absolument contradictoire, qui a des facettes extrêmement différentes, qui est capable de... un jour, il s'arrête à un kiosque dans un kiosque où on vend des journaux, il demande le Temps, le journal Le Temps, et le type lui dit « Pourquoi vous voulez pas un autre journal ?» L'autre dit « Non, parce que c'est très bien pour les intestins. Quand on a la colique, il faut le mettre autour du ventre et ça soigne. » Et il était capable de faire des blagues comme ça, et en même temps, il a apporté au Bateau Lavoir des journaux à épisodes, vous savez, les Nick Carter, ce qu'on appellerait les bandes dessinées aujourd'hui, pour lesquelles il avait une passion. Et puis, en même temps, c'était un lettré extraordinaire. Il parlait je ne sais plus combien de langues. Il était... c'est un personnage multiple, très difficile d'en faire le tour, tant il est riche et tant il est extraordinaire. J'ai beaucoup de sympathie pour Apollinaire. C'était un merveilleux compagnon, quelque part. Oui, et puis sa poésie est merveilleuse.
Ah,
sa poésie, de la poésie très moderne, très, très, très tendre, très savante, comme lui, comme lui.
Alors je vous lis, si vous le permettez. Retrouvons-les au pont Mirabeau, où Apollinaire a tenu à se rendre pour y voir Marie Laurencin.
C'était sa fiancée.
Eh oui, qui s'y promène chaque jour. Il tient à vérifier in vivo les prédictions de Max Jacob. Quand ils arrivent, le poète murmure « Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent ? La joie venait toujours après la peine. » C'est beau, apprécie Picasso. On a de la chance, nous les poètes, de pouvoir rimer comme ça, au mi-temps du jour, tout naturellement. Les peintres, il vous faut un carnet, des crayons, des tubes, une toile, un chevalet. Moi, je peux inventer un pont Mirabeau en 3 minutes. Et moi, faire ton portrait dans le même temps. Et alors que tu es dans l'effort et la construction, je suis dans la jouissance. C'est Picasso qui parle. Chaque trait est un plaisir, tandis qu'une phrase, c'est toute une architecture. Le temps de penser à un seul mot, par exemple, architecture, tu dois aligner le A, le R, le S, le... C, rectifie Apollinaire. Architecture, c'est avec un C. Exactement ce que je dis. Quand tu es un pauvre espagnol qui écrit mal français pour un mot aussi banal qu'architecture, tu dois le penser, le vérifier, l'écrire. Et tu as oublié ce qui vient après. Moi, si je veux représenter l'architecture, je fais 3 traits verticaux, 3 traits horizontaux, et tout le monde comprend dans toutes les langues. Jamais je ne serai poète. Ils sont assis sur la berge, la valise entre eux. Le fleuve est d'un gris cumulus. Le soleil a légèrement dépassé son zénith. Apollinaire tire sa montre de son gousset, regarde l'heure et soupire. Avant de poursuivre, vienne la nuit, sonne l'heure. Les jours s'en vont, je demeure. Oui, il soupire. On a l'impression quand même que c'est vrai qu'il est un peu le souffre-douleur de Picasso à certains moments.
Mais parce qu'à un moment donné, tout le monde a été le souffre-douleur de Picasso. Picasso était assez cruel.
Je le découvre à travers votre ouvrage, parce que je savais qu'avec les femmes, il avait été facilement odieux. Hein.
Ah oui, en ce moment, on parle beaucoup de Dora Maar. Dora Maar était une femme absolument merveilleuse, avec qui il a vécu au moment de la guerre d'Espagne. Il y a une scène qui est épouvantable, que je ne raconte pas dans ce livre-là, mais dans Le Temps des Bohèmes, où il est rue des Grands Augustins, où il habite, et arrive, il est avec Dora Maar, et arrive sa maîtresse cachée, qui s'appelle Marie-Thérèse. Et alors, Marie-Thérèse regarde Dora Maar et dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et Dora Maar lui répond « Bah, je suis là, je suis avec mon amoureux. »« Bah non, c'est le mien. »« Bah non, c'est le mien. »« Mais lequel il préfère ?»« Bah moi. »« Non, pas moi. » Et Picasso regarde ça en rigolant et puis dit à Dora Maar « Non, c'est pas toi que je préfère, c'est l'autre. » Et elles se battent. Elles se foutent des gifles, etc. Et Picasso est là comme un coq et il s'amuse. Voilà. Et il est parfois extrêmement dur. C'est un personnage très, très intéressant. Mais pas un tendre, je dirais, contrairement à Apollinaire.
Certainement. Et alors, vous les faites vivre dans ce lieu mythique, le Bateau Lavoir. Vous parlez de chambres microscopiques, d'odeurs mêlées de tabac, d'huile de lin, une chaise sur laquelle repose une souris blanche. Ça, c'est chez Picasso, je pense. Voilà, un tub, un gros poêle en fonte, une armoire passée au bout de noix, une lampe à pétrole, partout des chevalets, des toiles, des pinceaux.
C'était comme ça.
Une pagaille, certainement. Et c'est vrai, une simplicité, une pauvreté. Mais finalement, dans le fond, ça leur convenait.
Bon, c'est-à-dire qu'encore une fois, la bohème, c'est beau après.
Oui, c'est vrai, oui. On en parle avec... c'est la jeunesse, hein.
Oui, c'est la jeunesse, c'est vrai.
Ouais.
Mais, ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Ils ont des copains, ils sont amoureux, ils font des blagues, ils se débrouillent pour manger un peu, ou ils font des fêtes. Il y a un bonheur. Par exemple, Picasso a toujours dit que jamais il avait été aussi heureux qu'au bateau Lavoir, alors qu'il était pauvre et que le bateau Lavoir, en fait, c'est une ancienne manufacture de piano qui était tout en bois. On crevait de chaud l'été, on crevait de froid l'hiver, quoi. Mais c'est un lieu total, enfin, qui n'existe plus. Il a été démoli.
Il a brûlé.
Mais c'était un, enfin, c'est le cubisme est né là, quoi. Le bateau Lavoir, c'est un mythe extraordinaire.
Oui. Et puis, quand ils voulaient boire un coup, ils allaient
ils allaient dans les cafés alentour. Dans les cafés ou dans les boîtes.
Le lapin Agile, ils faisaient des fêtes au lapin Agile.
Qui était un petit bistrot. Le lapin Agile existe toujours d'ailleurs à Montmartre, hein. Un petit bistrot dans les vignes qui est très sympathique, où on joue du théâtre maintenant.
Alors justement, vous nous faites déambuler dans ces lieux-là. Il y a la closerie aussi. Pendant 5 jours, donc, ils déambulent. Et on voit cette vie, on l'imagine, on la visualise en fait. Hein. Voilà. Alors évidemment, où mettre cette valise qui va leur porter la poisse et qui est vraiment, elle leur brûle les doigts, mais on se dit, mais enfin, c'est curieux qu'ils ne la laissent pas quelque part. Donc, ils vont chez plusieurs de leurs amis, de leurs relations. Et là, on rencontre donc tous ces gens qui viennent. Et en particulier, alors il y a le douanier Rousseau, mais c'est une, là aussi, en lisant ce passage, je me suis dit, mais douanier Rousseau, il était naïf, il était un peu fou, qu'est-ce qu'il était?
Il était naïf.
Mais vraiment,
Il était naïf, parce que l'histoire que je raconte là, je ne l'ai pas inventée, elle a été écrite, je l'ai racontée à ma manière, mais l'histoire, je l'ai mise en scène, si vous voulez, c'est pas Picasso et Apollinaire. Picasso et Apollinaire arrivent chez le douanier Rousseau, ils frappent à la porte de l'atelier qui est fermée, ils montent au premier étage, et là, ils trouvent le douanier Rousseau qui est sous une table, pétrifié de peur. Ils lui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et le douanier dit, il y a un lion en bas. Il y a un lion dans mon atelier.
Il avait dû boire un coup quand même.
Non, il était comme ça.
Et donc, avait des hallucinations?
Je vous raconte la suite. Il dit, il y a un lion, je ne peux pas rentrer, j'ai peur. Et Picasso, qui est toujours armé à l'époque, encore une fois, il tirait en l'air, ça l'amusait beaucoup, il sort son Browning et il descend les escaliers avec Picasso derrière, et puis le douanier qui se cache derrière eux, qui a très peur. Et comme un flic, Picasso ouvre la porte, il tire, et puis il tue le lion. Sauf que c'est un tigre, et qu'en fait c'est un tigre qu'avait peint le douanier Rousseau. Et il a eu peur de ce qu'il avait peint. Et c'est une anecdote qui était racontée, je ne sais plus qui la raconte. Hein. Alors évidemment, il n'y avait pas Picasso et Apollinaire, c'est l'invention de l'écrivain, je le mets en scène. Mais vous savez, il y a une vraie question qui s'est posée à propos du douanier, c'est qu'on s'est toujours demandé pourquoi Picasso a de l'admiration. Il avait une grande admiration pour le douanier Rousseau, il adorait sa peinture naïve, et une des premières toiles qu'il a achetées quand il a eu un tout petit peu d'argent, sur le trottoir où il y avait donc d'autres, Matisse, etc., il a acheté une toile du douanier. Et ils se voyaient tant en temps. Mais quand vous regardez les toiles du douanier Rousseau, il y a ça, il y a cette naïveté extraordinaire. Par exemple, le portrait dont je parle, qu'il a fait d'Apollinaire et de sa fiancée, Marie Laurencin, ça ne ressemble absolument pas, ni à l'un ni à l'autre. Mais voilà, on l'adorait, le douanier. C'était un monsieur beaucoup plus âgé, très, très sage, qui organisait des petites balles musettes comme ça chez lui, bizarre. Enfin, c'était un type bizarre, quoi. Voilà, bizarre, mais naïf.
Oui, bizarre, par exemple, amoureux d'une personne.
Oh, génial,
et alors, bon, le problème, c'est que cette personne n'ose pas en parler à ses parents. Et puis, on apprend que la personne en question a 50 ans.
Oui. Il demande un mot. Mais ça aussi, je l'ai lu sûrement dans les mémoires d'Apollinaire ou dans des textes comme ça, mais il demande à Apollinaire un mot pour donner aux parents de sa future fiancée. Mais sa future fiancée ne veut pas de lui, de toute façon, donc il reste seul.
Il reste seul, voilà, et malheureux. Voilà, et alors, ce qui est également étonnant, c'est de voir comme, par exemple, alors je crois que c'est le douanier Rousseau qui vit dans un lieu, on parlait de la misère, et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer maintenant, et encore qu'il y a sans doute des peintres qui vivent dans des conditions très, très rudimentaires, mais ils vivaient dans une boîte à chaussures quasiment.
Oui, enfin, enfin, dans une boîte à chaussures, c'était une grande boîte quand même, mais ces gens-là...
Dont ils touchaient le plafond.
Ça, c'est Jarry.
C'est Alfred Jarry.
Alfred Jarry habitait rue Cassette, dans un appartement qui faisait un demi-étage et qui mesurait 1m30 de hauteur sous plafond.
C'est ça, oui.
C'est vrai. Et donc, en fait... et en plus, il avait une chouette, Jarry. Donc, en fait, il n'était pas très grand, mais sa chouette, elle avait la tête toute blanche parce qu'il la promenait sur son épaule et elle frottait le plafond. Et donc, quand Picasso et Apollinaire arrivent, Jarry leur dit, asseyez-vous, quoi, vous ne pouvez pas marcher, ou alors marcher à quatre pattes, chez moi, on ne peut pas. Et alors, au lieu de s'asseoir, ils se couchent parce que c'est une position normale et ils se retrouvent dans un espace invraisemblable qui était celui de Jarry et le drame de Jarry. Jarry est un personnage extraordinaire. Jarry est un type absolument merveilleux. Il y a une histoire que je raconte, il y en a plein sur Jarry, mais il y en a une qui est...
La Passion du Christ.
Ah non, c'est pas celle-là. Ça, c'est merveilleux, mais c'est un texte. C'est un texte où il raconte la passion du Christ.
Qui a un vélo.
C'est un vélo. Ouais. Mais parce que c'était un vélocipédiste, il faisait beaucoup de vélos. Non, il y a une autre histoire que je trouve merveilleuse, qui est, il est à la closerie des Lilas, et puis on n'a jamais connu de femme à Jarry, jamais. Et il est assis comme ça, il y a une femme à côté de lui, alors Picasso et Apollinaire s'arrêtent pour le regarder. Mais il a une femme à côté de lui. Et puis il le voit faire... Jarry sort son Colt que lui avait offert Picasso, il tire sur un miroir qui est en face de lui à la closerie des Lilas, il se retourne vers cette femme et il lui dit « La glace est rompue, maintenant causons ». Voilà. Et voilà, et ben c'était cette époque-là. Cette époque-là était une époque...
Mais lui, vous avez un faible pour Jarry. Moi, je le trouve un peu fou quand même.
Il était complètement cinglé.
Ah oui.
Mais il avait un drame, Jarry. Le drame de Jarry, c'est qu'en fait, tout le monde pense qu'il a créé Ubu Roy et c'est pas vrai du tout. C'est pas lui qui a écrit Ubu Roy. Il a trouvé le titre... Il a fait quelques corrections.
Et qui c'est qu'il a écrit ?
C'était une blague de lycéens. C'était des lycéens qui avaient écrit cette pièce pour se moquer de leur professeur de lettres ou je ne sais plus de quoi. Et quand Jarry est arrivé dans cette classe, la pièce était déjà écrite. Mais il l'a assumée, voilà.
D'accord.
Mais c'était son drame. C'est parce que bon, c'est une œuvre très connue, c'est l'œuvre la plus connue de lui, sauf qu'il ne l'a pas écrite.
Alors, évidemment, alors on a parlé déjà de Max Jacob, alors jaloux d'Apollinaire, évidemment. Et puis, on n'a pas parlé de Gertrude Stein, un sacré personnage aussi. Hein.
Femme incroyable.
Femme pas incroyable. Commode, hein, je pense.
Non, dure. Faut imaginer cette femme qui est très imposante, mal habillée.
Massive, oui.
Avec un frère qui est tout petit et tout fleuet à côté d'elle. Et puis un jour, elle découvre Picasso chez un marchand et elle va chez lui pour acheter des toiles. Et finalement, Picasso décide de faire son portrait. Il y passe des semaines. Elle vient là, elle pose. Fernand d'Olivier lui raconte, lui lit les scènes de La Fontaine, les fables de La Fontaine pour l'occuper pendant que Picasso... Et Picasso n'arrive pas à la peindre. Il n'arrive pas à finir le visage.
Oui. Et donc, ça a duré 6 mois cette histoire.
Oui, ça a duré très longtemps. Oui. Donc il abandonne, il s'en va travailler avec Braque dans les Pyrénées. Et quand il revient, il dit mais voilà, je sais. Et il fait la tête en une demi-heure. Et c'est la naissance du cubisme. Le portrait de Gertrude Stein est une œuvre incroyable.
Et qu'elle a eu l'intelligence d'apprécier.
Oui, alors c'était à part ça, elle a fait vivre de très nombreux. Elle achetait des toiles, notamment à Matisse, à Picasso, mais aussi à Braque. Et puis tous les samedis, elle recevait chez elle rue de Fleurus. Et donc il y avait ses portraits ou l'étoile des autres, et elle demandait aux peintres de s'asseoir sous l'étoile qu'ils avaient peinte. Et Braque était furieux parce que lui, on avait exposé sa toile au-dessus de la cheminée, donc du coup la fumée noircissait la peinture. Et Picasso était furieux aussi parce qu'elle avait osé vernir sa toile. Et il y a eu ce fameux mot où il y a un des invités de ces samedis qui dit à Picasso quand même, Gertrude Stein ne ressemble pas du tout... Enfin, le portrait ne ressemble pas à Gertrude Stein. Et Picasso répond, oui, mais elle finira par lui ressembler.
Oui, ça, c'est excellent, effectivement.
C'est une réplique formidable.
Effectivement. Oui, alors, elle est... Vous parlez d'un extrême courage, d'une rare vanité, d'un ridicule assumé et d'une générosité telle que beaucoup de rapins lui doivent le beurre qu'ils ont mis dans les épinards quand la disette régnait.
Mais elle était même... Elle était homosexuelle. Elle avait
une amie américaine,
d'amour.
D'ailleurs, non ?
Non, elle était avec son Alistoclas, qui était sa secrétaire. Oui. Mais elle le vivait. Tout le monde le savait. À l'époque, c'était quand même extraordinaire d'avoir ce courage de défendre cette homosexualité. Donc
dans
c'était
le milieu
une femme
artistique,
étrange.
C'était plus toléré, non ?
plus qu'ailleurs, mais quand même, l'époque, on est au début du 20e quand même. Hein, c'est pas une évidence. C'est pas une évidence. Et elle avait ce courage-là. À part ça, elle avait des réflexions qui sont passées dans la légende. Mais quand elle reçoit Hemingway, elle considère qu'elle est bien meilleure écrivain que lui. Et puis elle parle de génération perdue, quoi. Enfin, elle avait des saillies comme ça, un peu monstrueuses, hors de propos, je dirais.
Génération perdue, oui, effectivement. Mais alors, c'est vrai que tout est plausible compte tenu de l'époque, de la situation de chacun et du caractère de chacun. Moi, j'aimerais savoir comment vous avez procédé. Vous avez fait une enquête sur les personnages. Déjà, vous avez une connaissance, moi, qui m'émerveille, du monde de ces peintres.
Je vais vous dire, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Bohème, qu'on a réédité avec. Donc, j'avais trois tomes, Libertad et Minuit. Je suis venu pour Libertad chez vous. Qui raconte la vie des artistes entre 1900, l'arrivée de Picasso à Paris, 1902, et puis 1945, la fin de la guerre. Et là, dans ces livres, ce gros livre qui s'appelle donc Le Temps des Bohèmes, vous avez Picasso, Apollinaire, André Breton, Jean-Paul Sartre, les musiciens, Satie, enfin tout le monde, quoi, je veux dire tout le monde. Et j'ai passé des années à travailler sur ces livres. Et en fait, pour écrire Le vol de la Joconde, je me suis fondé non pas sur les livres d'aujourd'hui, mais sur les livres de l'époque, c'est-à-dire des mémoires, des témoignages, où il n'y a pas de censure.
En fait, vous nous donnez envie maintenant encore de connaître plus. Je crois qu'il va falloir que vous fassiez d'autres ouvrages, hein, de connaître encore plus la vie de ces artistes.
Mais je pense que j'ai épuisé. Enfin. Bon, le Temps des Bohèmes, c'est un livre qui fait 1000 pages, qui raconte tout ça, et c'est 15 ans de travail, quoi. Donc,
Le Temps des Bohèmes.
Ça s'appelle Le Temps des Bohèmes, et si je n'avais pas fait Le Temps des Bohèmes, je n'aurais pas pu faire Le vol de la Joconde.
Je crois qu'il faut lire les deux, maintenant. Voilà, parce que, bon, les dialogues, effectivement, c'est un bonheur, c'est un bonheur, et puis on a envie de le dire à haute voix, bon. Évidemment, il y a un petit bémol par rapport à Picasso. On a parlé de Picasso, bon, on lui a un peu taillé une veste, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il trahit Apollinaire, puisque Apollinaire est arrêté, il fait même 3 nuits à la prison, non, il me semble.
Oui, c'est une histoire, c'est triste. En fait, à un moment donné, donc, ils ont ces statuettes, ils décident de pas les remettre ni à Matisse, ni à Modigliani, ni à Soutine, ni à personne, mais de les glisser dans une consigne de la gare de l'Est. Et ils appellent anonymement un journal en disant, voilà, on a retrouvé des statuettes ibériques, elles sont là. Et bref, il y a enquête, et la police remonte jusqu'à Apollinaire. Et ils arrêtent Apollinaire. Et Apollinaire a passé quelques jours à la santé, il a écrit d'ailleurs des vers merveilleux. Et Picasso, lui, il est de son côté, il a peur, parce qu'il se dit on va m'arrêter, et on l'arrête aussi. On vient le chercher un matin, il est amené devant le juge d'instruction, c'est une histoire vraie, et le juge d'instruction lui dit: bonjour monsieur Picasso, est-ce que vous connaissez monsieur Apollinaire? Monsieur qui? Apollinaire. Ah ben non, je connais pas. Il est poète. Ah ben je connais pas de poète. Ah bon? Mais lui prétend le contraire, c'est un menteur. Et alors le juge dit: ben je vais vous confronter, c'est pas grave. Et il fait rentrer Apollinaire, et Picasso regarde Apollinaire, qui est donc son copain qui passe ses journées depuis des années, il le regarde, il dit: mais non, je connais pas ce monsieur. Et là, il y a un blanc. Ouais. Apollinaire lui dit: mais attends, tu racontes n'importe quoi. Et Picasso dit: bah non, pas du tout. Puis ça dure 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, il dit: mais bien sûr. Et puis ils s'embrassent et ils pleurent. Ouais. Et puis ils ont été amnistiés de tout ça. Mais c'est vrai qu'il a eu peur. Et quelque part. Bon, il a eu honte, hein, il l'a dit, après il a eu honte, et puis en même temps, pourquoi? Ben encore une fois, ils étaient étrangers, ils avaient peur d'être expulsés, voilà, c'était la raison pour laquelle il a dit ça.
Oui. Alors, justement, on parle d'expulsion, on parle d'accueil, je trouve que ça tombe vraiment à un moment intéressant. Hein,
c'est pour ça
vraiment.
Que je l'ai fait.
Oui, je m'en doute.
C'est pour ça que j'ai écrit
ce livre. Parce que bon, on voit quand même ce Paris riche de tous ces artistes, de tous ces étrangers qui se fondent dans la culture française, mais également qui apportent énormément.
Bien sûr. D'ailleurs, j'ai mis en exergue de ce livre une phrase de Guillaume Apollinaire qui lui-même parlait des étrangers. Si vous voulez, je peux la lire.
Oui.
Mais j'ai mis deux phrases qui représentent assez bien, d'ailleurs, qui sont ces deux personnages. Il y a une phrase de Picasso qui est très courte. « Je voudrais vivre comme un pauvre avec beaucoup d'argent. » Ça, c'est Picasso. Et la phrase d'Apollinaire, Il y a maintenant, comme en tout pays d'ailleurs, tant d'étrangers en France qu'il n'est pas sans intérêt d'étudier la sensibilité de ceux d'entre eux qui, étant nés ailleurs, sont cependant venus ici assez jeunes pour être façonnés par la haute civilisation française. Ils introduisent dans leur pays d'adoption les impressions de leur enfance, les plus vives de toutes, et enrichissent le patrimoine spirituel de leur nouvelle nation, comme le chocolat et le café, par exemple, ont étendu le domaine du goût. Voilà. Eh bien, moi, je pense que ce texte-là, par rapport au sans-papiers et par rapport aux migrants, ça a du sens.
Un grand merci, et de nous avoir fait redécouvrir, parce que il y a également des jeunes qui vous lisent, et redécouvrir ce monde-là et réfléchir justement à ce que vous venez de lire, parce que c'est important d'y penser.
Merci beaucoup, merci infiniment.
Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de l'ouvrage du roman Le vol de la Joconde, édité chez Grasset et écrit bien entendu par Dan Frank. Au revoir.
Merci, au revoir.